22 heures de.
Chapitre 59. Le calmar.
Poussé par une brise molle, le Pequod, maintenant son cap nord-est en direction de l'île de Java, barbotait dans les pâtures de krill. Dans cette atmosphère sereine, ses trois hauts mâts effilés se balançaient au gré des souffles, languides comme trois palmiers indolents sur une plaine. Et toujours l'on signalait, à de longs intervalles, dans la nuit argentée, le souffle solitaire et séducteur. Et puis un beau matin, sous un ciel d'azur transparent, alors qu'une tranquillité presque surnaturelle s'était répandue sur la mer, sans pourtant menacer de devenir un calme plat, alors que l'éclat longuement bruni d'une trouée de soleil sur les eaux semblait, tel un doigt d'or, leur enjoindre le silence, que les vagues couraient doucement, à pas feutrés en échangeant des murmures, et que l'univers visible était plongé dans un profond silence, un étrange spectre fut aperçu par Dagou en vigie au grand mât. Une grande forme blanche au loin s'élevait paresseusement. Elle s'éleva toujours plus haut et, s'arrachant peu à peu de l'azur, étincela enfin dans notre proue comme une masse de neige fraîchement détachée du sommet d'une montagne. Elle jeta ses feux un instant, puis, aussi lentement qu'elle était apparue, elle s'affaissa et disparut dans les profondeurs. Elle émergea à nouveau, pour briller en silence. Cela ne ressemblait pas à une baleine. Pourtant, n'est-ce pas Moby Dick ? Se demanda Dagou. Le fantôme plongea une nouvelle fois, mais lorsqu'il réapparut, le nègre lança un cri aigu, comme la pointe d'un stylet, qui tira chaque marin de sa somnolence. « Là, et là encore, brèche, là, droit devant, le cachalot blanc !» À ces mots, les hommes se précipitèrent au bout de vergues, comme les abeilles se jettent sur les branches au temps de l'essaimage. Tête nue sous le soleil brûlant, Achab, planté sur le beaupré, une main en arrière prête à donner d'un geste ses ordres au timonier, tourna son regard avide dans la direction que montrait le bras tendu, immobile, de Dagou. Soit que la présence intermittente du souffle tranquille et solitaire eût peu à peu préparé Achab à associer l'idée de la douceur, de la paix à la première apparition de l'animal particulier qu'il poursuivait, ou que, selon une autre explication, son impatience l'eût trahi, toujours est-il qu'il n'eut pas plus tôt aperçu distinctement la masse blanche qui l'ordonna, avec une hâte véhémente, de mettre les canots à la mer. Les quatre pirogues furent bientôt à l'eau, celle d'Achab en tête, toutes nageant vigoureusement vers leur proie. Celle-ci plongea, et tandis que, les avirons levés, nous attendions qu'elle réapparaisse, voici qu'elle ressurgit lentement à l'endroit précis où elle avait disparu. Oubliant presque Moby Dick, pendant un court moment, nous nous absorbâmes dans la contemplation du plus étonnant phénomène que les mers secrètes aient à ce jour révélé à un regard humain. Une gigantesque masse pulpeuse de plusieurs fûts longues d'envergure, d'une éblouissante blancheur crémeuse, flottait à la surface de l'eau. De longs bras rayonnaient innombrablement de son centre, s'enroulait et se tordant comme un nid d'anaconda, prêt, eût-on dit, à saisir aveuglément tout ce qui aurait le malheur de passer à leur portée. On ne lui voyait ni le contour, ni les traits d'un visage, rien qui pût suggérer la sensation ou l'instinct. La chose vivante qui ondulait ainsi sur les flots était informe, comme née du hasard, hors de toute loi naturelle. Tandis qu'elle s'évanouissait à nouveau avec un faible bruit de succion, Starbuck, les yeux toujours fixés sur les eaux bouillonnantes dans lesquelles elle venait de s'enfoncer, s'écria avec fureur. « J'aurais préféré voir Moby Dick et lui virer combat, livrer combat, plutôt que de rencontrer Blanche Apparition. »« Qu'est-ce que c'était, monsieur ?» demanda Flask. « Le calmar géant, dit-on, dont on dit que rares sont les baleiniers qui l'ont vu et sont rentrés au port vivant pour en parler. Achab, lui, ne dit mot. Virant de bord, il s'en revint au navire. Les autres suivirent dans le même silence. Quelles que soient les craintes superstitieuses que les pêcheurs de cachalots ont toujours associées à la vue de cette créature, il est certain que pareil spectacle, du fait de sa grande rareté, n'a pas peu contribué à lui donner la valeur d'un événement de mauvais augure. Sa rencontre est si exceptionnelle que, tout en déclarant unanimement que cette chose animée est la plus gigantesque du monde océanique, bien peu de marins ont une idée tant soit peu précise de sa nature et de sa forme véritable, ce qui ne les empêche pas de croire qu'elle fournit au cachalot son unique aliment. Car bien que d'autres espèces de baleines trouvent leur nourriture à la surface des eaux, où l'homme peut les voir pâturer, le cachalot, lui, va chercher sa subsistance dans des régions inconnues des profondeurs, et ce n'est que par induction que l'on peut dire en quoi précisément consiste la substance qu'il absorbe. Parfois, serré de près par ses poursuivants, il arrive qu'il dégorge ce qu'on suppose être les bras détachés du calmar géant, dont certains, ainsi exposés, dépassent 20 et même 30 pieds de long. On présume que le monstre auquel ses bras ont appartenu s'en sert habituellement pour s'agripper au fond marin et que le cachalot, à la différence des autres espèces, est pourvu de dents afin de pouvoir l'attacher et le déchiqueter. Il semble exister de bonnes raisons de croire que le gigantesque kraken de l'évêque Pontopidan pourrait être le calmar géant. La manière dont l'évêque le décrit, s'élevant puis s'enfonçant dans les eaux, ainsi que quelques autres détails, tout cela correspond. Mais pour ce qui est des dimensions proprement incroyables qu'il lui prête, il faut beaucoup rabattre. Certains naturalistes, aux oreilles de qui sont parvenues les rumeurs relatives à la mystérieuse créature que nous venons d'évoquer, la classent dans la famille des seiches, à laquelle, en effet, telle ou telle caractéristique externe paraît l'apparenter, mais alors elle serait l'anaque de la tribu.